Bonsoir à tous. Je suis très heureux de reprendre avec vous ce rendez-vous qui est devenu désormais familier à beaucoup depuis 3 ans, habituellement le premier mardi de chaque mois. Bienvenue donc pour cette 28e soirée d'éthique publique, la première de cette année universitaire des facultés jésuites de Paris. Et bienvenue notamment à ceux qui viennent pour la première fois dans ce lieu de réflexion et de débat. Je crois qu'il n'est pas très difficile de constater que face aux enjeux parfois compliqués dans les différentes réalités de nos vies, réalités sociales, politiques, professionnelles, internationales, ecclésiales, que nous avons bien besoin de nous retrouver pour réfléchir et nous éclairer mutuellement. C'est un enjeu intellectuel et spirituel qui nous tient à cœur ici au Centre Sèvres. Je parle sous le regard du père Henri Lot, qui est le président du Centre Sèvres, qui, je pense, ne me démentira pas, de prendre les moyens pour essayer de comprendre ce monde et nous tenir, autant que cela est possible, informés des questions qui traversent nos sociétés, notre monde, nos vies. Important d'avoir des espaces de dialogue simples et sans prétention, mais où une parole personnelle libre et respectueuse d'autrui est possible, et essayer de voir comment, personnellement et collectivement, eh bien, il nous est possible de nous situer. Donc, pas de conférence académique exhaustive sur un sujet dans le cadre des soirées d'éthique publique, mais bien une invitation à nourrir notre réflexion et notre agir. Le point de départ est la parole d'une ou deux personnes qui vont partager simplement, modestement et en confiance comment ils perçoivent les enjeux de telle réalité. Leur parole n'est évidemment pas une parole définitive, mais une parole pour ouvrir à d'autres paroles, d'autres réflexions. Le programme des soirées d'éthique publique n'est volontairement pas fixé de manière définitive pour toute l'année. Pour être notamment à l'écoute, je dirais, de ce qui bouge, de ce qui pose question dans l'actualité des jours, mais aussi dans, au-delà, je dirais, de la rumeur des vagues de surface. Le mois prochain, la soirée, en partenariat avec la revue Études, portera sur l'avenir de l'Europe dans la tourmente financière, crise de l'euro, crise de l'Europe, avec deux invités que nous avons déjà accueillis il y a 2 ou 3 ans sur des sujets différents, Gaël Giraud, jésuite, économiste, expert financier, et Jean-Louis Bourlange, politologue, ancien député européen. Je me permets de dire qu'il y aura deux modifications importantes pour cette soirée. La première, elle aura lieu le 8 novembre et non le 2 novembre, comme le veut la tradition du premier mardi de chaque mois, mais le 2 novembre... Le centre Sèvres est encore fermé, c'est encore les vacances de la Toussaint, il risquerait de ne pas y avoir grand monde, et moi le premier. Et deuxième modification, la soirée commencera à 19h30 et non 19h15 comme d'habitude. Voilà. Tout au long de l'année, les sujets de réflexion ne manqueront pas, thématiques nationales ou internationales. Évidemment, la perspective de l'élection présidentielle en 2012 va sûrement orienter, colorer notre réflexion en essayant d'aborder quelques dossiers importants de ce rendez-vous politique majeur pour notre pays. Je rappelle qu'il est possible de s'inscrire à l'accueil ou au secrétariat si vous désirez être informé par mail du thème de la prochaine rencontre, de même qu'il est possible d'écouter ou de réécouter l'enregistrement de la soirée et de toutes les soirées précédentes, d'ailleurs, sur le site internet du Centre Sèvres, www.centresèvres.com. Je pense aussi que notre assistance qui est fournie, qui est souvent fidèle, peut encore grandir, donc n'hésitez pas à nous donner de bonnes idées pour faire connaître cette proposition des soirées d'éthique publique, et puis surtout, continuer à faire connaître ce lieu autour de vous. Ces soirées sont d'abord les vôtres. Alors, s'il est un domaine qui est important pour notre société et pour son avenir, c'est bien celui de la famille, sujet sensible, car chacun y va de ses conceptions, de ses appréciations. Ces 30 dernières années, la famille a connu de profondes évolutions. Si elle continue à jouer un rôle capital dans la construction de chaque personne et du vivre ensemble, on peut se demander si notre société prend suffisamment soin de la cellule familiale. Et d'abord, de quelle famille parle-t-on? Quels changements se sont opérés? Quels sont les enjeux pour l'avenir? Quelle politique faut-il encourager? Pour nous aider dans notre réflexion, je suis très heureux d'accueillir nos invités. D'abord, Madame Monique Beaujard, à ma droite, mariée, mère de 4 enfants, ancienne avocat au barreau de Paris, je parle sous votre contrôle, titulaire d'une maîtrise de théologie. Vous êtes depuis 2009 directrice du service national famille et société de la Conférence des évêques de France, un service d'église que vous connaissez bien puisque de nombreuses années vous aviez déjà conseillé et travaillé pour la Conférence épiscopale française, mais aussi au niveau européen en étant notamment chargée de relations avec le Parlement européen à la COMEC, la Commission des épiscopats de la Communauté européenne à Bruxelles. Merci donc d'être avec nous ce soir après des jours bien chargés, puisque vous étiez la cheville ouvrière de cet important colloque organisé le week-end dernier sur le thème « Famille et société, quel choix pour demain ?» qui concluait en quelque sorte, mais pour ouvrir à d'autres perspectives que vous nous direz tout à l'heure, une année de réflexion « Famille 2011 » à l'initiative donc de la Conférence des évêques de France. Parce que la famille est un lieu d'humanisation et de transmission de l'amour, parce qu'elle joue un rôle capital dans la construction de chaque personne et de la société, l'Église ne peut pas être absente de la réflexion sur son évolution. Et avec votre équipe, vous avez voulu tout au long de cette année faire émerger ce qu'apportent les familles, peut-être d'abord en décryptant, et vous nous le direz tout à l'heure, le scepticisme ambiant, pour dégager aussi une vision réaliste des forces et des faiblesses des familles d'aujourd'hui, l'objectif étant de proposer peut-être des mesures, des initiatives qui peuvent aider les familles aujourd'hui, tant pour une politique familiale que pour une pastorale familiale. Merci d'être avec nous ce soir et de nous partager quelques-unes de vos intuitions au terme de tous ces mois de réflexion et de concertation. Nous sommes heureux aussi d'accueillir quelqu'un qu'on ne présente plus en cette maison puisqu'il y enseigne, Jacques Arennes. Mais comme tout le monde ne suit pas les cours du Centre Sèvres, je vais quand même le faire. Marié et père de 2 enfants, après avoir, là aussi je parle sous ton contrôle, suivi un double cursus en mathématiques appliquées et psychologie clinique à l'Université Paris 7 Denis Diderot et à l'Université Paris 6 Pierre et Marie Curie, vous avez entamé une carrière de psychologue clinicien et psychanalyste. On pourrait dire peut-être que vos travaux de recherche s'articulent autour de 2 thèmes principalement. Le premier relevant de la psychologie clinique qui concerne l'adolescent, le jeune adulte. Et dans ce cadre, vous vous appuyez sur une réflexion plus générale de psychopathologie, d'anthropologie de la famille. Et puis votre second axe de recherche traite de la psychologie, de l'anthropologie du fait religieux. Et je me permets sur ce dernier point de signaler la parution toute récente de votre dernier ouvrage, La quête spirituelle hier et aujourd'hui, un point de vue psychanalytique, qui est paru il y a quelques semaines, je crois, aux éditions du CERF. Vous enseignez et intervenez dans plusieurs lieux, le plus important est le Centre Sèvres, bien évidemment, et vous êtes membre du comité de rédaction de la revue Études, ce qui est plutôt bien vu dans cette maison. Vous êtes l'auteur, je viens de parler du dernier, de plusieurs livres en psychologie qui s'adressent autant aux chrétiens qu'aux non-chrétiens. Ainsi, par exemple, La défaite de la volonté aux éditions du Seuil en 2005, Souci de soi, oubli de soi aux éditions Bayard en 2002. Vous avez également coécrit avec le père Pierre Gibert, le psychanalyste et le bibliste, La solitude, Dieu et nous aux éditions Bayard en 2007. Vous collaborez aussi à de nombreuses revues et autres organes de presse, notamment dans l'hebdomadaire La Vie. Merci beaucoup, Jacques, d'être avec nous ce soir. Alors, je voudrais commencer peut-être en redonnant la parole ou en la donnant, parce que je ne l'ai pas donnée encore à Monique Beaujard, peut-être pour nous dire un petit peu, qu'est-ce qui a fait que les évêques se sont un peu mis en route sur cette question de la famille, quelle a été un petit peu la pédagogie adaptée et utilisée pour vos travaux de cette année Famille 2011, avant de passer la parole à Jacques, qui nous donnera un peu quelques éléments pour comprendre les évolutions précisément de cette famille dans ces dernières années.
Bonsoir à tous. Les évêques ont décidé de consacrer une année à la famille, non pas parce que c'est quelque chose de nouveau, mais parce qu'on est parti d'un constat quelque peu contradictoire. Prenez n'importe quel sondage français, européen, et vous trouverez la famille en haut du sondage quand il s'agit de savoir qu'est-ce qui est important pour le bonheur et le bien-être des personnes. Et ça, toutes générations confondues. Et en même temps, regardez l'état des familles et vous voyez qu'elles sont plus fragiles que jamais. Ça donne un peu cette impression comme si la recette du bonheur familial s'était perdue quelque part en cours de route. Et c'est un peu à la recherche de cette recette, si recette y est, on est allé. Alors comment a-t-on fait? On a fait un certain nombre d'auditions tout au long de l'année. On a essayé d'auditionner des personnes aussi diversifiées que possible, à la fois des universitaires qui travaillent ça du point de vue théorique sur la famille, des hommes politiques qui après tout prennent des mesures pour la soutenir, des responsables associatifs qui, sur le terrain, sont auprès des familles. À côté de ça, il y a eu un blog avec des semaines, toutes les semaines un billet qui permettait aux internautes de réagir et de faire connaître leurs observations sur ce qui va ou ce qui ne va pas aujourd'hui dans les familles. Puis un certain nombre de colloques, il y en a eu plusieurs en province, à Bordeaux, à Lille, à Strasbourg, et donc le colloque que nous avons fait le week-end dernier à Paris pour essayer de réfléchir tout ensemble, non seulement... pas sur la famille d'un point de vue intra-ecclésial, mais vraiment d'essayer de partager de façon très pluridisciplinaire les observations sur la famille. Le tout avec quatre objectifs affichés dès le début, François en a déjà donné quelques-uns, c'était donc prendre acte des changements dans la société et essayer de les analyser. Puis mettre en valeur ce que la famille apporte aux personnes et à la société. Ensuite, puisque c'est quand même la conférence des évêques qui mène ce travail, montrer en quoi le message du Christ est d'actualité aujourd'hui pour toutes les personnes, quelle que soit leur situation familiale. Et Mgr Descubes, qui est le président du Conseil Famille et Société, a beaucoup insisté sur ce point, quelle que soit leur situation familiale. Et puis à la fin, on a fait avec cette idée de voir si on peut dégager quelques pistes à la fois pour une politique familiale et pour la pastorale des familles. Voilà, Jacques Arène faisait partie du comité de pilotage de cette initiative Famille 2011. Il a largement participé aux travaux et nous a apporté beaucoup, notamment pour ce qui est justement de l'analyse des changements dans la société. Alors, la synthèse des auditions est publiée dans un document épiscopal qui s'appelle Famille, miroir de la société, mais Jacques a beaucoup plus à apporter que ce que la synthèse que vous trouverez dans ce document. Donc, je lui laisse la parole en premier.
Voilà, Jacques. Voilà. Bon, très bien.
Je vais lancer. Ça va marcher, c'est sûr, ça marche. Parfait. Oui, donc, je vais à la fois articuler une forme de diagnostic, mais orienté vers des questions sur l'avenir, puisque la question, c'est quel avenir pour la famille. Monique, peut-être, dessinera plus l'avenir par rapport à ce qui s'est dit dans le colloque. Hein. Alors, je vais préparer une petite présentation. C'est peut-être plus parlant de partir. Est-ce que vous ayez devant vous la présentation? Voilà. Vous voyez, c'est bon? C'est bon. Voilà, quel avenir pour la famille? Alors, on va partir d'abord du passé. Alors, j'aime bien citer, mais ça m'amuse, c'est pas amusé. Alors, je vous donne une citation d'un auteur célèbre qui parle de son père. Voilà, je ne vous dis pas, je vous dirai son nom après. L'impossibilité d'un rapport serein avec toi eut une autre conséquence bien naturelle en vérité, je désappris à parler. Sans jamais devenir grand orateur, même dans d'autres conditions, j'aurais pu à tout le moins maîtriser le langage humain ordinaire, mais tu m'as très tôt interdit la parole. Et on ne réplique pas. Cette menace et la main que tu levais en la proférant n'ont cessé depuis lors de m'accompagner. Je me mis à adopter devant toi, tu es un excellent orateur quand il s'agit de choses qui te concernent, une élocution heurtée, bégayante, mais c'était encore trop à tes yeux, et je finis par me taire. D'abord peut-être dans un seul geste de rébellion, puis parce que je ne pouvais plus ni penser ni parler devant toi. Et tu étais mon véritable éducateur, ma vie entière s'en est ressentie. Et donc un tableau apocalyptique d'un père écrasant, c'est pour montrer le passé. Bon, alors, je ne dis pas que tous les pères étaient comme ça au début du XXe siècle. Alors, qui est l'auteur de cette citation? C'est une petite devinette. Un auteur très célèbre. qui n'est pas français. C'est pas Freud. Freud chérissait plus son père. Kafka, voilà. Qui a dit Kafka?
Bravo.
Voilà, c'est Kafka dans la lettre au père. D'ailleurs, lettre qu'il n'a jamais envoyée, parce que sa mère l'en a dissuadé, ce qui était peut-être une bonne chose, je ne sais pas. Voilà, donc c'est dans la lettre au père, Kafka, donc c'est écrit en 1919. Alors, cette citation un peu amusante montre bien que, évidemment, enfin moi, alors j'aurai le regard du psy, on entend moins, beaucoup moins aujourd'hui dans nos cabinets des personnes écrasées comme ça par leur père. Et donc on voit bien la distance sidérale entre ce Kafka du début du XXe siècle et effectivement ne plus entendre tellement des narrations autour de pères écrasants. Donc ça c'est pour montrer au fond les évolutions qui sont très importantes, hein. C'est un petit clin d'œil pour montrer ces évolutions. Alors ce que j'appellerais une mutation anthropologique, c'est peut-être un peu fort, mais je crois qu'on est un peu dans cette mutation qui détient des aspects extrêmement positifs, évidemment. Par exemple, on est sorti quand même dans le monde occidental du patriarcat. Alors, je ne dis pas qu'on est sorti de la domination des hommes dans le monde économique, mais dans la famille ou dans les familles, en tout cas dans les familles que je suis amené à voir, donc les classes moyennes et classes favorisées, on peut dire qu'on est sorti du patriarcat. Alors, c'est un élément très important parce que tout était fait pour protéger l'autorité du père et la filiation paternelle jusqu'ici. Et cette question-là, peu à peu, disparaît, en tout cas, n'est plus au premier plan. Le premier référent de l'enfant, évidemment, sont les mères, le plus souvent, et c'est quelque chose qui était important au XIXe siècle, il le devient de plus en plus. Ce n'est pas une mutation nouvelle non plus, on voit bien combien, au XIXe siècle, il y a tout un changement par rapport à la place de la mère et la mise en valeur de la place maternelle, alors parfois d'une manière très condescendante par les hommes, hein, qui voulaient bien que les femmes soient quand même au foyer proches de leurs enfants. Mais il n'empêche quand même que c'est à cette époque-là qu'il y a eu cette mutation la plus importante. Alors, je dis les choses rapidement, évidemment, ça amène à caricaturer un petit peu. Bon, et puis, on a aussi une grande mutation très importante, c'est la question de la parole et du droit de l'enfant. Je crois que c'est quelque chose de très important lié au XXe siècle en particulier, que les juristes connaissent bien, mais pas seulement les juristes. On sent bien que, depuis les années 70, on accorde de plus en plus d'importance à l'intérêt et au droit de l'enfant. Les enfants peuvent même être écoutés par des juges, hein, comme en tant que tels, en tant que, on débat sur quel âge on peut les écouter, etc. Mais il y a une très grande importance de l'enfant. Et puis je crois qu'il y a toute une mutation qu'on mesure moins, mais qui est tout aussi importante, qui existe depuis deux siècles, hein, qui est importante depuis deux siècles, qui est au fond l'importance des dispositifs institutionnels en regard des familles, comme des dispositifs éducatifs ou des relais éducatifs. Hein, l'État, l'école et les différents métiers, assistants sociaux, psychologues, etc., qui fait que les familles ont parfois des référents, parfois même des personnes qui leur indiquent ce qu'elles doivent faire. Voilà. Et puis, un autre aspect de cette mutation où les dispositifs institutionnels sont divers, c'est bien évidemment, on sent bien qu'il y a une diversité des magistères, si je puis dire. C'est-à-dire que les parents, les éducateurs en général, mais les parents plus particulièrement, peu de parents arrivent très sûrs en disant « moi, je sais ce qu'il faut faire pour mes enfants ». La plupart, il y a un grand doute. Alors évidemment, je ne vois pas les personnes qui doutent le moins, mais il n'empêche, hein, je crois qu'il y a un doute quant à la légitimité éducative à la fois des parents et des éducateurs en général. Alors, tout ça, je brosse assez rapidement tout ça. Alors, dans cette mutation anthropologique, entre guillemets, évidemment, il y a tout ce qui tourne autour aussi du statut des femmes et de la question de la conjugalité, du statut des couples. Je ne suis pas sociologue, donc je le dis rapidement, mais il y a d'une part l'aspect du travail des femmes, la maîtrise de la fécondité, dont on ne mesure pas, ça, même les psychologues et les psychanalystes ne mesurent pas assez combien cette maîtrise de la fécondité a pour moi un impact psychique. C'est-à-dire que je pense que, et combien au fond est aussi un aspect psychique important. Je dirais un des aspects de la castration masculine, c'est l'impossibilité de faire des enfants directement sans avoir recours à des femmes. Et c'est peut-être un des aspects du patriarcat. En tout cas, c'est ce que dit Françoise Héritier. Elle dit le patriarcat, c'est dû au fait que les hommes ont voulu contrôler la reproduction et la reproduction du même. La reproduction du même, donc la production des garçons. Donc, on voit bien que cette prise de contrôle de la fécondité, bon, relative, mais enfin quand même très importante, c'est quelque chose d'essentiel dans l'histoire de l'humanité. Je crois que là, il y a quelque chose dont on n'a pas mesuré encore toutes les conséquences. Voilà. Et puis, évidemment, corrélativement, en même temps, ou peut-être en partie en conséquence de cette maîtrise de la fécondité, mais je crois que le travail féminin compte aussi beaucoup, il y a toute la question de la conjugalité, de la séparation des couples. Le chiffre de 80% des enfants qui sont confiés à la mère pour un divorce, c'est un chiffre plus ancien. Je crois que c'est un peu bougé. Il me semble que dans les plus jeunes couples, les pères demandent plus la garde. En tout cas, il y a plus de garde alternée. Voilà, donc ces éléments, je les donne assez rapidement. Ce qui est central derrière ces chiffres, et ce qui me paraît très important derrière tous ces chiffres, c'est maintenant, au fond, on n'est plus lié, on a vraiment une vision de la famille. Alors, comme le disait Monique, la famille, c'est toujours très important pour les Français. Et quand vous demandez aux gens ce qui est important, voire ce qui est sacré, hein, comme une certaine pub pour Eram le dit récemment, hein, qu'est-ce qui est... Enfin, vous verrez cette pub, c'est une pub assez étonnante. Enfin, la famille reste toujours sacrée pour les gens, mais il y a une transformation du regard sur la famille. Évidemment, la filiation est beaucoup moins au centre, me semble-t-il. En tout cas, cette nécessité de s'assortir à la filiation, notamment à la filiation paternelle. Et la conjugalité, au contraire, c'est-à-dire le fait de faire couple et de se réunir autour d'un couple, est devenue très importante. Je ne dis pas que la filiation a disparu, parce qu'il y a un désir d'enfant qui est toujours présent, mais le désir d'enfant n'est pas nécessairement un désir de filiation. Peut-être qu'on pourra y venir dans le débat tout à l'heure. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'élément central fédérateur est plus souvent la mère. Et puis il y a ce désir de réussir, hein, qui va avec le côté sacré de la famille aujourd'hui, donc qui n'a pas changé d'une certaine manière, mais sur un mode peut-être plus inquiet qu'auparavant, qui n'est plus le mode des grandes traditions dont on hérite, mais plus de ma vie à réussir, et notamment ma vie de couple et ma vie de famille à mettre en forme et à réussir. Et peut-être une plus grande solitude, en tout cas une plus grande solitude dans les moments de difficulté. Je cite une phrase d'un psychanalyste tunisien, Fethi Ben Salama, hein, qui rapporte une phrase justement d'une première génération d'immigration, qui parle de ses enfants. Il dit aujourd'hui, les jeunes couples qui sont nés en France, ben, ils sont seuls. Ils n'ont plus la famille élargie pour tout contrôler. Alors, évidemment que le contrôle de la famille élargie avait des aspects négatifs. Mais il y a une plus grande solitude des personnes par rapport à leur choix, et donc une liberté, évidemment, mais aussi par rapport aux difficultés, quand les difficultés arrivent. Voilà. Alors, moi, j'aime bien cette phrase pour résumer et ramasser tout ce que je viens de dire. J'aime bien cette phrase très importante de Marcel Gaucher dans une revue, hein, quand il dit qu'au fond, la famille n'est plus considérée dans cette vision, au fond, très personnelle, très conjugale de la famille. La famille n'est plus considérée comme un lieu politique, d'une certaine manière. En tout cas, pas au sens d'ouverture au monde social. On ne considère plus que la famille, c'est un lieu qui s'ouvre à la société et qui crée du lien pour la société. En tout cas, beaucoup de gens ne le considèrent pas. Elle n'a plus rien à faire avec l'organisation publique, dit-elle. Elle est devenue rigoureusement privée. Alors, je crois qu'il exagère un peu en disant ça. Je crois que c'est plus complexe. Mais c'est une phrase qui formule cette idée de la privatisation des familles. C'est-à-dire que ce qui est très frappant, hein, chez les psychologues que nous sommes, de voir combien il y a une espèce de privatisation, de narcissisation de la famille, où les personnes se méfient beaucoup des autres adultes et considèrent que leurs enfants sont des chasses gardées, en tout cas quand les choses se passent le plus mal. Hein, et l'enfant, évidemment, ces familles-là qui sont plus privatisées, sont où l'enfant est vraiment l'enfant du désir. Alors j'ai connu, dans les générations précédentes, on voit encore des personnes âgées qui n'ont pas été désirées par leurs parents, hein, et pour qui c'est une souffrance de ne pas avoir été désirées. Les enfants du hasard ou de la providence. Alors que maintenant, si vous voulez, on peut voir une souffrance d'avoir été trop désiré, d'une certaine manière, hein, d'avoir été trop surinvesti par ses parents. Voilà. Et peut-être une angoisse du lien qui est beaucoup plus présente aujourd'hui, en raison justement à la fois de la fragilité des familles et peut-être en raison de la fragilité des familles et de la condition peut-être mouvante du lien aujourd'hui. Alors, ça c'est... Alors, j'ai vraiment ramassé, hein, pour ne pas parler trop longtemps, de plusieurs... Oui, mais c'est des évolutions très profondes, hein, cette évolution de l'enfant désiré. Hein, récemment, vous avez un sociologue qui vient de mourir, qui avait fait un livre remarquable, Paul Lyonnais, sur la condition, ça s'appelle La fin de la mort. un très beau livre et qui parle à la fois du fait que la mort est exclue de notre horizon et en même temps des enfants désirés, très désirés, et quels sont les impacts psychologiques et sociologiques. Donc, ce qu'avait dit Paul Lyonnais, son diagnostic dans son livre est tout à fait remarquable parce qu'il montre bien que le fait que les enfants soient désirés, ça change complètement le rapport à l'enfant. Et notamment dans la relation entre les parents et le reste de la société. Alors, qu'en est-il de l'avenir par rapport à ces mutations très importantes? Et je ne pense pas qu'on soit au bout de prendre la mesure de la profondeur de ces changements. D'abord, peut-être parce que ces changements ne sont pas complètement achevés, mais il me semble que ça va encore se déployer pendant quelques années. Alors, moi, je pense qu'effectivement, ce qu'a dit Monique est très juste, c'est-à-dire que la famille comme valeur, c'est pas terminé. C'est au contraire quelque chose qui va continuer d'une manière très importante. On peut pas dire que les gens se désintéressent de la famille, ni que les politiques s'en désintéressent. En tout cas, c'est quelque chose d'important pour les gens. Il y a ce qu'on appelle une valuation forte du fait familial, notamment dans un monde mouvant. Un aspect qui me paraît, en revanche, il faut voir un peu ce qu'il y a derrière cette valuation, c'est-à-dire la famille. Une famille très privée, c'est pas la même chose qu'une famille considérée comme cellule de base de la société. On peut avoir une valuation forte d'une famille considérée comme ma famille ou notre famille et considérée que je ne suis pas nécessairement partie prenante d'une éducation sociale de mes enfants. Bon, je crois qu'un des aspects importants, en revanche, des mutations et des choses à travailler dans l'avenir, c'est la question de la transmission. C'est-à-dire que je parlais de l'inquiétude des parents et des éducateurs. Il me semble que, alors là, peut-être que les églises et les milieux chrétiens en général peuvent être utiles par rapport à cette réflexion sur la transmission, y participer. Je pense qu'il y a toute une difficulté aujourd'hui par rapport à la transmission, mais un désir en même temps, très fort de transmission. Donc il faut peut-être accompagner à la fois ce désir et cette difficulté. Difficulté par rapport au fait de penser à la dissymétrie, comme on est dans un modèle très démocratique et égalitaire. Le modèle démocratique égalitaire n'est pas tout à fait le modèle familial, pas complètement. La famille, d'une certaine manière, est dissymétrique et inégalitaire. En tout cas, on pourra en discuter. Et donc, comment penser une transmission dans un modèle quand même égalitaire qui est très important et qui est beaucoup plus important qu'aujourd'hui. Et une dissymétrie qui tienne compte quand même, évidemment, de la parole des enfants et de leur cheminement. Moi, j'ai mis lutter contre la dépressivité parentale parce que je pense que c'est important. On voit beaucoup de parents dépressifs, entre guillemets, pas dépressifs en tant que personne, mais qui ont une position vis-à-vis de leur devoir ou de leur droit ou de la manière d'intervenir avec leurs enfants, qui est une position dépressive, parfois d'abandon ou d'inquiétude. Il y a beaucoup d'angoisse des parents. Moi, je crois qu'il faut essayer d'accompagner les parents, en général, au niveau politique, mais peut-être au niveau plus personnel, vis-à-vis de ces questions-là. Pourquoi il y a tant d'angoisse vis-à-vis de la transmission dans un pays, quand même, où, globalement, quand même, on est beaucoup plus confortable que dans beaucoup de pays. Et puis, cette question de réinstitution, la famille n'est plus et moins une institution, peut-être, au sens où on l'entendait auparavant. Comment arriver à remettre la famille au centre, du lien à faire entre le macro, le fait social et le fait plus intime. La famille est très bien placée pour ça. Est-ce qu'il n'y a pas une faillite à ce niveau-là ou une difficulté? Et arriver à replacer la famille dans cette régulation-là. Voilà. Alors, une autre question qui me paraît importante, mais qui tient au changement actuel, c'est-à-dire qu'on peut considérer qu'il y a une crise du masculin aujourd'hui. Donc, voilà, comment les choses vont se révéler. Et je pense que la question aussi, c'est la même chose que pour la dissymétrie éducative. Est-ce qu'on peut penser une différence dans le couple qui ne soit pas une différence inégalitaire? Voilà. Donc ça, c'est aussi une question extrêmement importante. Parce que dans le monde contemporain, on a tendance à penser, les gens sont assez ambivalents, mais parfois on considère que dans le couple, une différence est forcément productrice d'inégalité. Alors, je crois qu'il y a une question à penser là. Moi, je pense que là aussi, nos réflexions peuvent être utiles. Et puis, je crois, par rapport à ce qui s'est passé là, dans le colloque, donc je te passe le témoin, parce qu'au fond, il y a une nécessité d'accompagnement. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a un très grand désir de famille, et puis on rencontre des gens qui ont des trajectoires extrêmement accidentées, et même parfois inimaginables, tant elles sont accidentées au niveau familial, personnel, filiale, même de perte de contact avec les enfants parfois, enfin des choses très, très, très complexes. Et je crois que par rapport aux églises, et par rapport en général aux institutions, il y a cette question, comment accompagner en respectant la liberté des uns et des autres, puisque c'est une donnée actuelle, comment accompagner ces trajectoires accidentées dans ce désir de faire famille qui est tout aussi important aujourd'hui. Voilà.
Merci Jacques. On aura sûrement l'occasion de revenir vers toi pour des précisions, des explications dans le débat. Alors Jacques a pointé quelques enjeux importants, pas très simples quand même pour l'avenir. Est-ce que dans vos travaux, ceux du dernier colloque, mais surtout la réflexion de toute l'année, voilà, il y a peut-être des, non pas des réponses, sinon ça se saurait, mais des points d'attention où vous dites, oui, comme pour l'Église, comme chrétien, ça vaudrait la peine de pouvoir s'arrêter.
Il y en a un certain nombre. C'est un peu un gageur de devoir résumer en un quart d'heure, 20 minutes, le travail d'une année, un colloque de 2 jours. J'ai accepté ça quand François m'a contacté. À la mi-août, je rentrais de vacances, donc je pensais que c'était faisable.
C'est le meilleur moment pour la réponse.
C'est pas sûr, voilà. Je partirai d'un sondage qui a été publié la semaine dernière par La Croix, en vue de notre colloque, et qui dit que 77% des Français, si on leur demande ce qu'ils souhaitent pour la vie de famille, eh ben, ils aiment construire leur vie de famille avec la seule et même personne toute leur vie. 77% des Français, et même 89% des 25-34 ans. Même à la conférence des évêques, les chiffres ont surpris. Mais à travers tout ce qu'on a étudié pendant toute l'année, je peux vous dire aussi que ces rêves des jeunes, qu'on ne peut que, je veux dire, on peut qu'être heureux de constater qu'ils ont ce rêve, c'est pas du tout un rêve passéiste. Les gens ne rêvent pas du tout d'un retour à la famille d'avant 68. Déjà, les femmes n'en rêvent pas parce qu'avant 65, les femmes mariées étaient incapables majeures. Mais bon, ça, c'est un détail. Mais on voit très bien que ce que 68 a jeté aux orties, c'est la famille carcan social, pétrie de conventions. Personne n'a envie de retourner à ça. La famille qui fait rêver aujourd'hui, c'est la famille lieu d'épanouissement personnel. Et c'est à la fois, je dirais, donc la nouveauté de la famille qui se dessine, et nouveauté dans aussi bien les politiques que les églises devront tenir compte, qui fait sa richesse et qui fait aussi ses difficultés. Si on dit que la famille est un lieu d'épanouissement personnel, on voit bien que chacun va y chercher ce dont il a besoin pour son épanouissement personnel. C'est à la fois très positif, je dirais, pour l'Église, si les gens découvrent que leur épanouissement personnel passe par les autres. L'Église, depuis toujours, enseigne l'anthropologie chrétienne qui dit que l'homme est un être relationnel et que son épanouissement passe par les autres. Anthropologie qui est peu connue et que l'Église aura certainement intérêt à mieux faire connaître. Donc les gens le découvrent, ce qui est intéressant, les gens le découvrent spontanément que dans un monde hyper individualisé, finalement, on a besoin des autres pour s'épanouir. Donc pas besoin d'aller même au Centre Sèvres pour le découvrir. Mais enfin, ça ne veut pas dire que les cours de théologie n'ont pas leur intérêt. Mais voilà, cette famille donc est aujourd'hui fondée sur le seul sentiment amoureux, alors qu'avant, vous aviez toute la société qui la tenait autour. Et puis, il y a toutes ces mutations dans la société, et Jacques en a pointé un certain nombre, qui rajoutent encore à la fragilité. On sait bien que le lien amoureux, de toute façon, bon, il a quelque chose d'éphémère. Hein. Après, il faut y rajouter des ingrédients pour que le lien tienne dans la durée. Mais il y a donc plein de fragilités, plein de raisons qui fragilisent aujourd'hui la famille. Il y a tout ce qui tient au réaménagement des rôles entre l'homme et la femme. Et ça, Jacques l'a bien dit, avant le rôle était prédéfini, aujourd'hui il n'y a plus rien de prédéfini, vous inventez la distribution des rôles comme vous voulez. Et on voit des jeunes couples, et ça Jacques pourra le confirmer, qui s'épuisent dans la négociation du quotidien du coup. J'ai amené les enfants ce matin, tu les amèneras demain matin, etc. Il y a la pression du temps aussi dans notre société qui pèse très lourd. Et là, bon, je n'arriverai pas à dire ça en 20 minutes. Il y a des travaux d'un sociologue allemand, Hartmut Rosa, qui sont extrêmement intéressants, qui montrent comment les technologies modernes, avec tout ce qu'elles ont de positif, détruisent aussi tous nos repères dans le temps. Tout ce que nous connaissions comme séquences fixes dans la vie, que ce soit les saisons pour les fruits et légumes ou les horaires pour les magasins, ou les époques de la vie pour la formation, pour exercer un métier, etc., tout ça est chamboulé. Et pour lui, ça a un effet aussi sur nos vies de famille. Parce que si, dans tous les autres domaines de la vie, on est soumis à un changement permanent, pourquoi alors la famille resterait le seul élément stable dans une vie mouvante? Ou peut-être au contraire. C'est pour ça qu'on aspire à cette stabilité, parce que tout autour de nous, le monde devient de plus en plus changeant. Et ce sociologue allemand va jusqu'à suggérer qu'il faudrait faire des îlots de décélération, et la famille serait un moyen de faire un îlot de décélération. Il y a aussi le fait que les identités sont beaucoup plus fragiles. Avant, l'identité, vous la receviez dans la famille, le milieu social, le métier de votre père, le parti politique, la religion, tout ça. Vous le preniez, ce que vous trouviez dans votre famille. Aujourd'hui, vous avez un choix énorme. Et les identités doivent se construire tout le temps. Ce qui fait que les identités étant plus fragiles, se lancer dans l'aventure qu'est un couple devient aussi plus difficile. Et puis, Jacques l'a déjà dit aussi, il y a l'isolation des familles. C'est vraiment quelque chose qui est sorti très fort des auditions que nous avons réalisées. C'est qu'à cette société individualiste correspond en fait une isolation des familles, un isolement des familles qui ne trouvent généralement plus autour d'eux ni la famille au sens large, ni une insertion dans des communautés locales où ils trouvent un soutien ou un accompagnement pour les difficultés de la vie. Donc tout ça fait des familles extrêmement fragiles, perturbées, qui essayent de tenir sur le seul lien amoureux et qui doivent trouver eux-mêmes les ressources pour durer dans le temps. Et cette idée que la famille peut être le lieu de l'épanouissement personnel, parce qu'encore une fois, c'est bien comme ça qu'elle est vue aujourd'hui par les jeunes et peut-être même par les moins jeunes, pointe en même temps aussi la contradiction de ce désir. Parce que si vous prenez tout le temps, si vous poursuivez tout le temps votre intérêt personnel, vous réclamez vos droits personnels, qui prend soin de la famille à ce moment-là? Il y a un parallèle à faire entre ce qui se passe dans la famille et ce qui se passe dans la société. C'est pour ça que notre document s'appelle « Famille miroir de la société ». L'individualisme, on le constate dans la société, fait que beaucoup de problèmes de société sont justement abordés uniquement par le biais des droits individuels. L'exemple le plus parlant pour cela est par exemple la façon dont on traite la non-discrimination. C'est toujours par le biais des minorités et des droits individuels. Si vous voyez toujours tout par le biais des droits individuels, vous allez donner un droit à telle minorité, un droit à telle minorité, et les droits individuels vont s'accumuler. Mais ça ne crée pas de cohésion sociale. Ça crée que du conflit entre droits individuels. L'exemple dans la famille sera par exemple le droit de l'enfant et le droit à l'enfant. Ils vont rentrer le droit à l'enfant que peuvent réclamer certains couples et le droit de l'enfant de connaître par exemple son père et sa mère. Ça rentre en conflit s'il n'y a pas quelqu'un qui, à un moment donné, dit où est le bien commun pour la société ou le bien commun pour ce groupe qu'est la famille. Donc on ne peut pas tirer en permanence sur la collectivité pour uniquement en retirer son intérêt personnel ou poursuivre ses droits personnels sans jamais prendre soin de ce groupe ou de cette collectivité ou de la société en tant que telle et de voir où est le bien commun. Et ce qui nous a apparu au fil de tous ces travaux, c'est que c'est là où il y avait un déficit de penser ce qu'est le bien commun de la famille. Quel est l'intérêt du groupe? Si personne n'en prend soin, eh bien, il se délite. Si chacun, l'exemple est très simple, vous allez faire une balade à deux, si un veut aller à gauche et l'autre à droite, vous avez peu de chances d'arriver ensemble au même endroit 2 heures plus tard. Hein? C'est un peu ça ce qui se passe aujourd'hui dans les familles. Les gens sont très attachés à la famille, mais oublient que pour que la famille vive et pour que la famille puisse jouer ce rôle de cocon pour l'épanouissement personnel, encore faut-il aussi prendre soin de la famille. Alors, pendant ce colloque, c'est sorti par des billets très différents, parce qu'aussi, on avait invité des gens très différents. Mais beaucoup ont dit qu'aujourd'hui, faire famille, c'est d'abord un travail. Ça ne va plus de soi. Avant, on rentre dans le mariage, c'était un moule, les choses étaient bien claires. L'homme travaillait à l'extérieur, la femme s'occupait des enfants et du ménage. Tout autour de vous concourait à maintenir ce lien. Le divorce était mal vu, il y avait certaines choses sur lesquelles on fermait les yeux, mais voilà. Aujourd'hui, donc, tout ça ne tient plus, il n'y a plus rien autour. Donc, ce travail, les époux doivent le faire eux-mêmes. Ils doivent faire ce travail sur eux-mêmes pour voir comment ils peuvent durer. Ils doivent donc trouver des ressources pour cela. C'est le cardinal 23 qui, par exemple, a beaucoup insisté sur ce fait que faire famille aujourd'hui, c'est un travail. Il a insisté aussi au passage, et je trouve ça intéressant, que l'Église n'était pas là pour juger les cœurs, mais pour accueillir tout le monde. Autre chose qui est très bien sortie du colloque, alors là c'était un démographe, c'est que ce qu'on appelle le familialisme, c'est-à-dire justement ce modèle ancien où la femme reste à la maison, ne travaille pas à l'extérieur, les pays d'Europe où elle existe encore, où ce modèle existe encore, c'est là où la natalité est la plus basse. C'est l'Espagne, c'est le Portugal et l'Allemagne. Donc, finalement, c'est des pays comme la France qui ont et le taux de natalité le plus élevé, ou parmi les plus élevés d'Europe, mais aussi le taux d'emploi féminin le plus élevé. Donc, il faut sortir de nos schémas de penser que le retour en arrière est la solution pour la famille. On a beaucoup insisté que la famille, et là c'est un philosophe, Jean-Philippe Pierron, un des rares philosophes à travailler vraiment sur la famille, que c'est qu'elle crée comme lien, qu'elle est moins aujourd'hui une entité qui donne des places à chacun, mais il a parlé de l'hospitalité généalogique qu'elle offre. C'est une très belle expression, je trouve. Et qu'elle permet à chacun de raccrocher son histoire personnelle à l'histoire de l'humanité. Et pour ça, il faut bien être accueilli dans une famille, avec un avant et un après. On a eu aussi un juriste, Madame Françoise de Coeur des Fossés, qui a expliqué combien le droit qui évolue vers plus de liberté, plus d'égalité et plus de respect. On a souvent critiqué le droit de la famille qui faciliterait le divorce. C'est vrai, il facilite le divorce. Mais si vous prenez l'évolution sur 40 ans ou 50 ans, c'est surtout plus de liberté pour les époux, plus d'égalité entre les époux. Et là, en fait, ça rejoint parfaitement ce qu'a dit Jacques. Avant, le droit de la famille était dominé, il y avait la puissance paternelle et la puissance maritale. Aujourd'hui, vous avez égalité des sexes et autorité parentale à partager entre les époux. Ce n'est pas toujours facile, mais il y a peu de gens qui voudront venir en arrière. Et puis, on a eu aussi une intervention de Philippe Borden, le recteur de l'Institut catholique, et qui est justement ça aussi, ça rejoint ce que Jacques soulignait tout à l'heure, comme quoi la famille est à cette jonction entre ce qui fait la cellule privée et ce qui fait la société, et l'importance d'un bon fonctionnement de la famille pour que le lien social puisse se créer. Et pour lui-même, c'était le rôle de la religion de veiller au renouvellement du lien social. Tout autant d'interventions qu'on dirait au moins une heure, et des gens qui auraient pu parler aussi 4 heures sur le même sujet, donc impossible de vous résumer ça, c'est peut-être trop superficiel pour passer tout ça en revue. Donc il y a un point du colloque qui m'a particulièrement frappé et que je voulais partager avec vous, encore une fois parmi 1000 autres possibles. Deux personnes d'horizons complètement différents et qui ont parlé aussi avec un vocabulaire complètement différent, pourtant de la même chose. Dimanche matin, nous avions au début de matinée Jean-Paul Delevoye, président du Conseil économique, social et environnemental et ancien médiateur de la République. Et en fin de journée, nous avions frère Enzo Bianchi, le prieur de Bose en Italie, connu, je pense, au moins de certains, en tout cas un grand leader spirituel. Et les deux ont parlé du temps et de l'espérance. C'est peut-être plus logique de la part d'Enzo Bianchi que de la part de M. Delevoye. Et pourtant, M. Delevoye, homme politique, a beaucoup parlé du temps et de l'espérance. Et pourquoi ? Parce qu'il disait que si les familles donc, sont fragiles aujourd'hui, c'est qu'on a perdu quelque part le sens de la vie et que le sens de la vie était lié au sens du temps. Il disait avant, dans une société agricole, le travail était dur, la vie était dure, et l'espoir était, l'espérance était dans l'au-delà. Après, il y a eu la société industrielle, où on pouvait déjà espérer une récompense matérielle dans la vie ici-bas. Peut-être que l'au-delà, c'est un peu effrité, mais enfin, il y avait des récompenses à espérer. Mais qu'aujourd'hui, on est dans une société de consommation où la seule espérance, c'est la satisfaction de l'envie ou d'un désir immédiat. Et qu'il n'y a plus d'avenir, et qu'il n'y a plus de passé. Et les gens vivent, du coup, dans un instantané, et notamment les jeunes. Et qu'à ce moment-là, il n'y a plus d'espérance. Et quelque part, Enzo Bianchi a fait le pendant de cela, en partant bien sûr d'autres choses, en disant que le mariage, le mot « époux » venait du latin « spondere », qui veut dire « promettre », et que « respondere », « répondre », est aussi « assumer une responsabilité ». Et que la promesse réciproque que se font les époux dans un mariage, cette promesse devient leur responsabilité. Mais il disait, mais qu'est-ce que promettre ? Promettre, c'est faire espérer. C'est donner forme à l'avenir. Et finalement, toute notre vie est faite de plein de petites promesses qu'on se fait tout le temps de faire ceci, de faire cela, à plus ou moins longue échéance. Et comme il disait aussi, celui qui promet s'engage à donner quelque chose qu'il n'a pas. Le temps, l'avenir. Donc c'est une façon de créer du futur, de créer de l'espérance. S'engager à donner du temps à quelqu'un. De l'écouter. Et là aussi, M. Delevoye disait, ce qui manque dans notre société, c'est le temps de l'écoute, c'est le temps de prendre du recul, c'est le temps du discernement. Tout autant de facteurs que pour ces deux hommes qui parlent encore une fois d'un point de vue complètement différent, étaient pour eux importants pour dire pourquoi les familles sont à tel point fragilisées aujourd'hui. Pour en débattre longtemps, c'est bien sûr des questions assez complexes. Pourquoi j'ai retenu cet exemple du temps ? Parce que je pense que là-dessus, c'est un des axes sur lequel certainement l'Église peut apporter quelque chose à la société. Parce que, en tant que chrétiens, nous avons accès à une autre approche du temps, qui est que le temps de la société de consommation et d'Internet. Lisez les psaumes, ou tout autre texte de la Bible, on a toujours accès au temps de Dieu. Et si on regarde les activités humaines, au regard du temps de Dieu, elles prennent un tout autre relief, une toute autre perspective. Donc peut-être que là, c'est un axe, mais c'est un parmi d'autres, où en tant que chrétien, on peut apporter quelque chose de spécifique à notre société pour faire réapprendre le temps, une autre gestion du temps, créer peut-être ce fameux îlot de décélération dont parle le sociologue allemand. Mais ça, c'est une piste parmi d'autres. Il y a eu des choses beaucoup plus concrètes, parce que là, si je vous dis que vous devez réapprendre le temps à vos voisins, ce n'est pas évident de prendre votre voisin entre quatre yeux en disant « Bon, je vais t'apprendre ce que tu dois faire de ton temps. » Mais je trouve quand même intéressant que ce thème soit sorti par des biais complètement différents comme étant une des raisons de la fragilité des familles aujourd'hui. Sinon, parmi les perspectives, je ne peux pas vous dire encore aujourd'hui ce qui va se passer, les évêques devraient normalement travailler ce dossier en novembre à l'Assemblée plénière de Lourdes. Parmi les choses très concrètes qui sortent clairement, c'est que par exemple les gens ont finalement une méconnaissance totale différentes formes juridiques qui permettent aujourd'hui de donner auxquelles ils ont accès pour régler leur vie de couple, concubinage, pax ou mariage. Tout ça, ça a un contenu juridique différent avec des conséquences différentes et les gens ne le savent pas. Mettre les droits à distance comme étant quelque chose dont ils se méfient parce que c'est une contrainte. Ils ne voient plus, par exemple, ce que le droit a de protecteur. Bon, faire concrètement une information beaucoup plus accessible à tous sur ce qu'impliquent les différents types d'engagement peut aider les gens aussi à mieux assumer la responsabilité. Et le secrétaire d'État à la famille, il y a un groupe de travail actuellement sur la préparation des mariages civils. C'est-à-dire que c'est une préoccupation qui peut se trouver en Église aussi en État. Du côté de l'Église, enfin ça c'est une des pistes, je dirais, plus du côté de la société. Du côté de l'Église, il y a quand même aussi, et Monsieur Descubes l'a beaucoup souligné à la fin du colloque, l'importance de sortir d'une conception trop morale de la famille, et de réhabiliter peut-être l'importance du lien, de la relation, d'une relation qui se construit au quotidien par les mille et un humbles gestes du quotidien, et de faire place à un accompagnement de tous ces gens qui peinent finalement à construire leur vie de famille. Et que le cardinal 23 avait dit pareil en ouvrant le colloque, qu'en fait l'Église devrait accueillir plus largement tous ceux, quelle que soit leur situation. On ne pourra pas toujours accéder à toutes leurs demandes, mais qu'on n'était pas là pour juger leur cœur, mais pour voir où les prendre là où ils en sont et essayer de les faire cheminer. Alors ça c'est juste quelque chose, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Les évêques prendront certainement quelques décisions à Lourdes, enfin il faut l'espérer. Mais en tout cas c'est un grand chantier qui est ouvert. Et à ce colloque, il y avait quand même 75 diocèses représentés, ça veut dire 75 départements environ. Ça veut dire que c'est quand même une réflexion qui peut après, enfin, dont on espère qu'elle sera un peu essaimée en France et un peu partout dans les lieux qui réfléchissent à la famille. Voilà.
Merci beaucoup, Monique, de nous avoir partagé ces réflexions, réflexions de l'année, réflexions aussi du colloque du week-end dernier. C'est là qu'on se rend compte qu'on aurait vraiment dû venir au colloque.
Tout à fait. Il restait quelques places, mais il n'aurait pas pu caser tout le monde, et puis tu n'aurais pas été content qu'ils n'étaient pas ici ce soir-là.
Voilà, mais ils seraient revenus pour poursuivre la réflexion. Et merci de nous avoir indiqué des axes pour continuer justement la réflexion, prendre soin du bien commun, les notions de temps, d'espérance, l'importance du lien, de l'accompagnement. Je crois que c'est des choses vraiment qui résonnent pour nous très profondément dans nos histoires ou dans les familles que nous connaissons. Et c'est autant de thèmes sur lesquels nous pouvons revenir dans le cadre du débat que nous allons avoir maintenant. Nous avons une bonne demi-heure devant nous pour pouvoir échanger convictions, questions sur la situation actuelle, sur l'avenir, sur une parole chrétienne par rapport à la famille. Alors, comme nous en avons l'habitude, un micro va se balader. J'espère qu'il est allumé. Tu vas l'allumer, Romain. C'est pas le même micro que d'habitude. Ça laisse le temps de préparer vos questions, vos interventions. On va en prendre. Voilà. Le micro marche. Alors, il y a une question tout au fond. Tout au fond, tout au fond. Merci. On va en prendre deux ou trois avant de redonner la parole.
Bonsoir, merci pour votre précision. Ma première question, effectivement, s'agirait de la position de la France au niveau de la polygamie. Est-ce que véritablement, à travers le Code civil, est-ce que cette question où le ministre concerné, le secrétaire d'État, s'est posé la question, est-ce qu'aujourd'hui, il faut changer les mœurs des Français ? Ou est-ce qu'il faut modifier le code civil, c'est-à-dire clairement par rapport aux pays arabes, est-ce que nous sommes des polygames successifs, c'est-à-dire je me marie, je divorce, je me marie, je divorce, ou est-ce que véritablement, effectivement, à la différence des arabes, la polygamie additionnelle? Donc ça, c'était ma première question. Ma deuxième question, effectivement, à travers le contexte économique, surtout quand on vit des crises et des krachs boursiers, est-ce que le rôle du père n'est pas relativement engageant et important? Ça, c'est côté père. Et est-ce qu'au niveau de la mère, cette conversion de la mère peut-être ne pas être au fourneau, mais la conversion d'Ève en mari? Merci.
Je ne suis pas sûr qu'on ait bien compris la fin. Vous juste préciser, mais très brièvement, la fin de votre propos, parce qu'on n'a pas bien entendu.
Oui, en fait, sur la deuxième question, c'était le rôle du père et comment le père, effectivement, peut être présent dans la famille aussi bien pour élever ses enfants que pour le couple. Et oui. Au niveau de la mère, quel est l'engagement de la mère, effectivement, et pas uniquement à travers sa cuisine ou son fourneau, ni à travers ce monde de travail, mais effectivement à travers le socle qui porte la famille, à travers sa spiritualité, elle qui porte la vie, et en l'occurrence la conversion de la femme d'Ève vers Marie. Merci.
Merci, on a mieux compris. Voilà. Merci.
Oui, je voudrais revenir sur ce que disait M. Arène à propos de la solitude des couples actuellement. Mais je voudrais dire que les grands-parents, eux, sont de plus en plus sollicités. Enfin, c'est notre expérience personnelle. Et ce n'est pas seulement pour du babysitting.
Parlez un peu plus fort.
Oui, je dis que je voulais insister sur le rôle des grands-parents aussi face à la solitude des pères et des mères face à leurs enfants, parce que nous, notre expérience de grands-parents montre qu'on est de plus en plus sollicités et qu'on n'est pas les seuls, pas seulement pour du gardiennage d'enfants, hein, mais bon, est-ce que c'est quelque chose qui vous semble important, ou est-ce qu'on est des cas particuliers, quoi.
Merci, Monsieur Chabert. Une autre peut-être réaction ou question? Oui, devant, Romain. Voilà, levez bien la main pour que... Voilà. Merci.
Oui, je reviens sur une observation de Mme Boja. Je cite. Le sens de la vie est lié au sens du temps. Donc, or, ce qui se passe actuellement, il y a une satisfaction des désirs immédiats. Donc, plus d'avenir, plus de passé, plus d'espérance. Je vous cite à peu près ce que vous avez dit. Et donc, la famille ressort fragilisée. Donc il y a cette suggestion d'un auteur dont je n'ai plus le nom en tête, créer des îlots de décélération. Or, dans certaines démarches, dans certaines spiritualités, je pense au bouddhisme, est-ce que cette démarche de décélération en termes de temps n'existe-t-elle pas, et ceci depuis un grand nombre de un temps très très important. Faut-il donc vraiment créer des îlots de décélération alors que certaines démarches philosophiques nous indiquent déjà le chemin.
Bien, on va s'arrêter là et puis on reviendra pour une autre série de questions tout à l'heure. Il y a déjà beaucoup de choses. Peut-être revenir sur le rôle du père, le rôle de la mère. Peut-être, Jacques, tu as des choses à dire sur ce point.
Oui, sur la polygamie aussi.
Oui.
Non, mais... C'est vrai que, au fond, on était plus polygame d'une certaine manière il y a 50 ans. C'est-à-dire que l'infidélité conjugale était plus tolérée. Alors évidemment pas dans un terme de polygamie, mais un des aspects, moi je le vois bien, il y a beaucoup plus de difficultés à tolérer, ce qui est plutôt une bonne chose parce que les personnes sont moins hypocrites. L'infidélité, c'est-à-dire qu'une femme aujourd'hui tolérera beaucoup moins que son mari et une autre femme et qui lui s'arrange bien avec les situations. En général, une des causes constantes de divorce ou de séparation, c'est justement le refus d'une autre relation, même une relation extra-conjugale. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de difficultés vis-à-vis des femmes aujourd'hui d'accepter l'infidélité masculine. Avant, il y avait une sorte de devoir d'acceptation, etc. Alors, du coup, on est beaucoup plus monogame d'une certaine manière, mais par morceaux. Monogame par morceaux, hein. Moi, j'étais statisticien, c'est qu'on a des périodes... Au fond, les couples, en général, sont assez fortement monogames, mais quand ils ne le sont plus, ils restent ensemble. Le plus souvent. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de variation autour de cette moyenne-là. Alors, un autre point sur le rôle du père et de la mère, c'est vrai que... comment dire, ouais, bon, il y a un changement énorme. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent, si vous voulez, qu'il y a tout ça est gravé dans le marbre. Je pense que ce n'est pas gravé dans le marbre, mais la preuve, c'est que les choses ont évolué. Alors, il faut s'entendre ce que disent classiquement les psys, notamment peu importe quelle école, disent au fond qu'il faut séparer la question du rôle et de la fonction. Hein, c'est-à-dire que les rôles ont évolué, hein, qu'effectivement, rôle masculin et féminin, paternel et maternel, se sont peut-être un peu plus rapprochés dans la vie familiale. Mais peut-être qu'il faut garder quelque chose de l'ordre de la fonction qui est plus profond, plus symbolique, où au fond, peut-être le père devrait garder un certain accent paternel, si je puis dire, et la mère un accent. Alors, le problème, c'est à définir. Mais on a tendance à penser quand même, beaucoup de gens encore ont tendance à penser qu'il y a peut-être une possibilité de prise de recul plus importante pour un père, de plus grande distance en raison de la moins grande proximité corporelle et affective avec l'enfant, etc. Donc, ce que les psys classiquement ont appelé le rôle symbolique du père, etc. Alors, le problème du rôle symbolique du père, c'est quand il ne vient que symbolique, si je puis dire. Le père, ce n'est pas seulement une parole, c'est aussi une présence. Donc, il y a des questions très, très importantes qui sont posées aujourd'hui par rapport à ça. Je crois qu'effectivement, on doit retrouver cette inflexion qui n'est pas simple. Je crois je vois des jeunes pères, par exemple, qui sont très, très proches, beaucoup plus proches qu'avant, hein, que les générations d'avant de leurs enfants, proches même en termes de soins, hein, en termes de partage des soins, de partage des tâches, etc., et qui en même temps sont un espace de rivalité avec la mère, des difficultés à se positionner comme autre, hein, dans le rapport aux enfants, comme celui qui peut évidemment peut-être être un peu plus à distance, etc. Donc là, il y a une vraie question. Mais moi, j'ai tendance à penser que sans rester dans des rôles gravés dans le marbre, penser quand même qu'il faut retrouver une certaine approche paternelle, peut-être plus à distance, peut-être plus à distance au sens de la vision de l'avenir, par exemple, puisqu'on parlait du temps. Je ne dis pas que les femmes ne voient pas l'avenir, mais je dis simplement que le souci se déploie d'une manière différente entre le souci masculin et le souci féminin. Alors c'est très difficile de repenser tout ça sans qu'on nous dise « Ah ben vous êtes essentialiste hein, ». Essentialiste au sens « Vous voulez graver dans le marbre ce qui est du masculin et ce qui est du féminin hein. ». Mais je crois qu'il faut quand même avoir le courage d'avoir ce type de réflexion. Parce qu'il me semble, et c'est ce que disait Monique, que les couples s'épuisent. Dans les négociations sans fin, dans les rivalités sans fin, c'est tout à fait épuisant, les jeunes comme les moins jeunes. En général, les couples âgés, bon, ils finissent d'arrêter de lutter par épuisement, mais ça peut... Vous savez, c'est comme quand, dans la guerre des chefs d'Astérix, hein, vous avez, à force de se battre ensemble, à bras raccourcis, que c'est un autre chef, et ils finissent par s'endormir l'un sur l'autre en luttant. Donc, mais il y a un vrai épuisement par rapport à ces questions-là, c'est sûr. Monique.
Je pense que Jacques a déjà largement répondu. En fait, oui, la polygamie, chez nous, elle existe dans le temps. Sous autres cieux, elle existe dans l'espace. Mais de moins en moins là-bas aussi, parce qu'il y a des conditions économiques qui font que ce n'est pas toujours évident. Donc... elle a toujours existé chez nous, en fait. Si je peux rappeler que là, avant 1975, l'adultère était en fait un délit pénal, mais elle était toujours un délit pénal pour les femmes, elle était un délit pénal pour les hommes que s'ils le commettaient au domicile conjugal. Ce que l'homme faisait en dehors du domicile conjugal, la société jetait un voile pudique là-dessus. Donc, je ne pense pas que la situation soit vraiment pire aujourd'hui. Qu'elle n'était dans le temps. Elle prend d'autres formes, en fait. Mais bon, Jacques a déjà...
Mais c'est un des aspects de la durée dans les couples, c'est-à-dire en dehors de l'histoire de l'adultère. Une des questions du fait que les gens ne restent pas ensemble, c'est comment affronter les épreuves du couple. Alors, l'adultère fait partie d'une épreuve assez classique des couples, mais il y en a d'autres. Hein. Il y a les conflits, il y a l'éducation des enfants, mais en fond, on a une vision assez romantique aujourd'hui de la vie de couple. On considère que quand ça commence à castagner, c'est qu'on ne doit pas être ensemble. En fait, la réalité est plus complexe. C'est-à-dire que souvent, il y a la vie de couple, c'est une vie où on s'expose beaucoup à l'autre. Donc, il y a des conflits, il y a parfois de la violence, il y a des épreuves. Donc ça, ces outils pour affronter les épreuves dans le temps, en fait, on n'en a pas vraiment. Dans le monde contemporain. Alors, évidemment, les églises ont peut-être des choses à dire là-dessus. Hein.
Le rôle des grands-parents ?
Ah oui, le rôle des grands-parents. Oui, non, mais je pense qu'effectivement, quand je dis les gens sont plus seuls, c'est vrai, c'est faux. C'est-à-dire, je pense que on est sorti des générations du devoir, ça on le voit bien. C'est-à-dire qu'on ne va pas amener ses enfants aux grands-parents par devoir, parce qu'il faut qu'ils voient les grands-parents. Ça arrive encore, mais c'est pas. On ne va pas s'occuper de sa mère malade par devoir. Et ça sera peut-être compliqué dans les années à venir, vu le déferlement du papy-boom. Mais ces générations du devoir existent de moins en moins. C'est-à-dire l'injonction, comme le disait Monique, qu'on a aujourd'hui. Et c'est pas seulement parce que nous sommes individualistes d'une manière structurelle, mais c'est parce qu'on nous dit C'est une injonction sociale de se réaliser soi-même. On nous demande de nous réaliser. Donc, on n'a rien d'autre à faire que de se réaliser. C'est ce qu'on nous demande. Et donc, je crois que, sorti de ces générations du devoir, il y a un certain nombre de choses qu'avant on faisait par devoir, et je dirais, et pourquoi pas ? Des choses qui ne sont pas très faciles à faire de soi, je veux dire. S'occuper de ses parents malades, c'est pas très marrant. Et, alors, je ne dis pas qu'il faut toujours le faire, mais voilà. Donc, maintenant, ce n'est plus le cas. C'est-à-dire que le lien devient un lieu de création personnelle où chacun décide d'une certaine manière. Alors, il y a quand même des normes sociales qui existent. Je ne dis pas qu'il n'y a plus de normes, mais la décision personnelle est plus importante. Et donc, ça dépend aussi du génie de chacun et de l'état la profondeur du lien avec les grands-parents, donc avec les parents des époux. Enfin, toutes ces choses-là, ça dépend vraiment des conditions de température et de pression. Alors, il peut y avoir des qualités de rapport tout à fait étonnantes. Quand la relation est bonne, quand tout... Voilà, on est sorti de générations, au fond, tout était beaucoup plus formel. Mais en même temps, le formel, c'est parfois utile quand il n'y a pas beaucoup de sentiments. Ça aide à conserver quelque chose, parfois. C'est un peu ça qui est... C'est-à-dire qu'on est seul quand ça ne va pas bien, souvent, aujourd'hui.
Il y avait une question sur les îlots de décélération, Monique.
Oui. Vous avez raison. Dans différentes traditions religieuses ou spirituelles, existe, je dirais, une certaine appréhension du temps. Ce sociologue ne parle pas du tout de religion. C'est pas son domaine. Il a fait une analyse de la société en disant que ce qui caractérise notre société aujourd'hui, c'est l'accélération. Et quand il dit qu'il faut créer des îlots de décélération, c'est plus pour dire que les personnes doivent eux-mêmes prendre la décision, finalement, de mettre à un moment donné le temps, de prendre le temps pour quelque chose, parce que la société, la vie sociale, ne le leur donne plus. Alors, après, qui puise les ressources pour cette décélération dans la foi chrétienne, dans la religion bouddhiste ou dans toute autre philosophie, ça, il n'en parle pas, c'est pas ça. Mais il cite, entre autres, les monastères comme lieu de décélération, bien évidemment. Hein? Mais, donc, ce n'était pas du tout par rapport à... C'est moi qui, après, ai dit, je pense que de ce côté-là, en tant que chrétien, on a quelque chose à proposer. Mais ce n'est pas le propos du sociologue, en fait, qui, lui, a... Enfin, c'est un pavé comme ça, mais c'est très intéressant à lire pour analyser notre société aujourd'hui.
Reprenons une série de questions, convictions. Je crois qu'il y en avait une. Romain, levez bien. Voilà, Romain, voilà. Tu... Oui. Et après, nous reviendrons après. Voilà, levez bien la main pour qu'on vous voit, sinon, merci.
Merci pour cette conférence. Je suis prêtre, et puis ce qui me parle beaucoup ce soir, c'est la dynamique de la relation. Je crois que ça, c'est très important, retrouver dans les couples, mais aussi dans l'Église, parce que l'Église, je crois qu'elle est trop vue d'un point de vue moral, et plus assez d'un point de vue de la relation, par exemple, à Dieu, aux autres, et à soi-même aussi. Merci.
Merci. Ça valait la peine de vous écouter. Voilà, on va, Romain, refaire le tour. Voilà. Alors, levez bien la main, voilà, parce que sinon, on perd son tour. Merci.
Vous nous avez rappelé tout à l'heure qu'en fait, de manière paradoxale, c'est dans les sociétés les plus traditionnelles que la natalité est la plus faible. Donc, c'est une idée, c'est intéressant. Est-ce que vous avez exploré les différentes politiques d'allocation familiale entre les divers pays? Est-ce que le colloque va réfléchir à ces données-là, dans la mesure où on rentre dans une période d'élection et où il y a des projets assez différents d'un parti à l'autre? Et il y a une deuxième petite question, mais vous y répondrez si vous avez du temps, parce que c'est un peu compliqué. J'ai pas bien compris le concept de dire que dans le couple, il y a des différences, mais il n'y a pas d'inégalité. C'est-à-dire, comment est-ce que c'est conciliable? Est-ce que c'est conciliable, ou alors est-ce qu'on doit définir des inégalités, dire bon ben voilà, toi tu fais ça, et voilà.
Merci. Derrière Guy.
Oui, je voudrais simplement savoir si les évêques se sont préoccupés de ces nouvelles théories sur le genre et leurs éventuelles répercussions sur la famille.
Merci. On va s'arrêter là pour l'instant. Il y a déjà pas mal de choses. Est-ce qu'on peut revenir peut-être sur différence, mais pas inégalité ? Et puis ensuite, éventuellement, je ne sais pas s'il faut ajouter quelque chose sur l'affaire de relations morales, même si c'est bien sûr fondamental, mais on peut démarrer là-dessus.
Je crois que c'est quelque chose qu'on a du mal à penser aujourd'hui. Par exemple, une inégalité en termes hiérarchiques, c'est-à-dire qu'au fond, on peut dire que dans la famille patriarcale, il y avait une hiérarchie, hein, l'homme étant le chef de famille et la femme étant un capable majeur, hein, jusqu'à 65. Donc il y avait à la fois des différences marquées, une inégalité hiérarchique marquée, et chacun à sa place. Et au fond, il y avait beaucoup moins de rivalité, évidemment, et de conflits à ce niveau-là par rapport au partage du territoire, hein, dans le couple. Le territoire, les gens faisaient beaucoup moins de choses ensemble d'ailleurs, les couples actuellement font beaucoup plus de choses ensemble, donc il y a plus de territoire commun, voilà, plus de territoire commun en termes de rôle vis-à-vis des enfants, mais même dans la conjugalité. Et puis il y a ce désir au fond de négocier les choses continuellement. Alors moi je pense que le désir de négocier c'est très bien, hein, mais en même temps parfois on redéfinit le fil à couper le beurre. Est-ce que, au fond, alors d'abord, d'une part, il faut voir les choses pour un couple donné et au niveau social, au niveau culturel. Je pense que peut-être pour un couple donné, c'est important de ne pas être tout le temps en train de renégocier, donc de réfléchir à la manière dont on va vivre sa différence, entre guillemets. Et puis peut-être qu'au niveau social, alors c'est beaucoup plus complexe et on rentre dans les questions du genre, hein, sur ces questions-là, de voir un peu est-ce que... Moi, je pense vraiment qu'on peut avoir une approche, et on le voit bien d'ailleurs par rapport à certaines minorités dans la société, on peut avoir une approche différente. On est dans une société ambivalente où à la fois on met en valeur les différences et les minorités tout en parfois léniant dans certains domaines. Et je crois que dans le domaine de la sexuation, c'est un lieu où on n'aime pas trop parler des différences alors qu'on en parle dans d'autres domaines, d'une mise en valeur des différences. Je crois qu'il y a vraiment une nécessité de penser, alors d'une manière, je dirais... dynamique et non rigide, non statique, les différences. Donc les différences ne sont jamais gravées complètement dans le bas, mais une manière de penser la différence qui sort de cette idée d'hiérarchie. Bon, bien. Alors moi, ça me paraît très important. Alors j'ai pas de je pense qu'un homme, par exemple, pour parler du rôle des pères, peut très bien avoir un impact ou alors une action qui soit la sienne par rapport à celle de sa compagne, sans nécessairement être le chef de famille. Okay, voilà, moi je pense qu'on est vraiment dans cette question là et je pense qu'on est très ambivalent aujourd'hui sur cette approche, voilà, donc, mais c'est pas simple à déployer aujourd'hui ces questions là
Monique, peut-être l'Église face un peu au débat sur la théorie du genre. Oui.
Bon, c'est venu, comme tout le monde sait, par l'apparition de quelques mentions assez éparses sur cette théorie dans des manuels scolaires de sciences et vie de la Terre, il me semble, en première. Bon, la théorie du genre, en France, elle est encore peu connue, hein, et puis le vocable recouvre finalement un ensemble de théories qui ont des choses en commun, mais qui sont quand même assez différentes. Dans les pays anglo-saxons, ça a pris depuis longtemps une importance considérable. Donc en France, ça ne fait que pointer, je dirais, le bout de son nez. Alors bien évidemment, sur un truc comme ça, tout le monde somme immédiatement les évêques de prendre position et de dire que c'est très, 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 très mal. Alors que les évêques ne sont pas forcément spécialistes de tout non plus. Donc ce qui se passe pour les manuels scolaires, en fait, il y a un groupe de travail au niveau de l'enseignement catholique. Enfin, ils ont pris position pour dire qu'en fait, il semblait y avoir dans certains manuels une façon d'exposer les choses qui paraissait un peu tendancieuse. Et donc, l'enseignement catholique travaille avec les évêques sur des contre-propositions de ce côté-là. Maintenant, la théorie du genre en tant que telle, encore une fois, c'est un bloc énorme. Certainement, ça fait partie des choses que les évêques devront acquérir, mais je dirais comme le reste de la population française, parce que bon, Jacques connaît ça mieux que moi. Sous ce seul vocable se cachent des choses très différentes. Je veux dire, tout le monde peut être d'accord pour admettre que votre environnement culturel et éducatif influence votre façon d'être femme ou d'être homme. Ça, c'est une chose. Et l'extrême de la théorie du genre, ce serait de dire que ben, vous êtes là et c'est vous qui décidez si vous allez être femme ou homme, que vous vous construisez complètement vous-même par vos libres choix. Entre les deux, il y a toutes les catégories intermédiaires. Donc, je pense que les évêques seront tout à fait d'accord pour admettre que ben, si on est homme ou femme en France, on n'est pas du tout homme ou femme de la même façon, par exemple, si on est en Inde ou si on est, je ne sais pas, il y a des codes sociaux qui jouent dans la façon dont on s'exprime. Je veux dire, moi qui ne suis pas originaire, d'origine, je ne suis pas française, peut-être d'ailleurs que depuis tout à l'heure, vous dites, elle traîne un petit accent, d'où ça sort. Je suis originaire des Pays-Bas. Je préfère, j'ai épousé un Français, parce que les Français sont quand même infiniment plus courtois, enfin la plupart, que les Hollandais. Donc il y a une façon d'être homme en France que franchement je préfère à la façon d'être homme aux Pays-Bas. Et là, je ne pense pas que les évêques aient quelque chose à redire. Enfin, j'espère. Donc, de même que les femmes à Paris sont mieux habillées qu'à Amsterdam. C'est une façon d'être femme à Paris qui n'est pas pareille que dans d'autres pays. Mais donc là, quand on parle de théorie du genre, on a besoin d'affiner beaucoup plus.
Ça recoupe les questions qu'on se pose, hein. C'est-à-dire que il y a effectivement tout un continuum entre, au fond, ce sur quoi tout le monde tombe d'accord aujourd'hui, sauf peut-être des réactionnaires infâmes, sur le fait qu'effectivement il y a des aspects culturels dans la sexuation. Il y a une reprise culturelle de la sexuation, et dans cette reprise culturelle, évidemment, le fait de porter un pantalon ou des jupes, on voit bien que c'est pas directement lié à la question biologique. Il y a aussi peut-être des aspects culturels. Bon, et puis il y a tout le débat autour de ce qu'on appelle le constructivisme, c'est-à-dire est-ce que ce qui se passe dans ces différences culturelles, c'est du pur construit ou non ? Ça, c'est une vraie question, mais qui déborde la question de la différence des sexes. Un Butler, qui est une des grandes théoriciennes de ces théories les plus avancées du genre, quelqu'un que je connais bien a été récemment à un congrès sur le terrorisme, donc ça n'a rien à voir avec la sexuation apparemment. Et un certain nombre d'auteurs butlériens disaient, ben oui, le terrorisme, c'est un pur construit social, ça n'existe pas vraiment. Alors, ce qui est un peu gênant pour les terroristes eux-mêmes, qui ont envie quand même qu'on les reconnaisse comme terroristes, mais c'est une pure construction des États. Alors, on voit bien qu'il y a une démarche intéressante là-dedans, de dire, au fond, on voit bien, Begin, avant d'être le chef de l'État israélien, ben, il a été terroriste sous les Anglais. Donc il y a quand même quelque chose de relatif dans le terrorisme. Et en même temps, dire que c'est une pure construction sociale, que c'est seulement les États qui construisent le terrorisme parce que ça les arrange, on voit bien que c'est quand même plus complexe que ça. Oui, et donc il y a tout un enjeu autour du constructivisme, hein, et notamment par rapport à la situation, de se dire, bon, au fond, est-ce que tout est construit ? C'est-à-dire, est-ce que tout dépend de mon bon vouloir ? La question est là. On est au centre de cette question du narcissisme contemporain. Est-ce que tout dépend de mon bon vouloir ?
Vous évoquiez tout à l'heure la notion de bien commun pour la famille, et une question autour des politiques familiales aussi dans la perspective des élections. Peut-être qu'il y a des choses à dire sur ce sujet.
Oui, il y avait une table ronde politique dans le colloque qu'on a eu ce week-end, et donc où il y a eu des représentants de différents partis, PS, UMP et MoDem. On a la chance en France qu'il y ait un certain consensus quand même sur la politique familiale qui est ancienne, qui est constante et que l'Europe entière nous envie. Ça n'existe pas de cette façon dans d'autres pays. Et en fait, les pays qui sont donc où la natalité est la moins élevée, vraiment, c'est là où il n'y a pas de politique familiale du tout et où on compte encore sur la famille au sens large, pour finalement venir en aide aux parents. Le débat qu'il y a eu dimanche après-midi montrait qu'après, c'est les accents qui vont, en fait, c'est le type de mesure, c'est là où ça va faire une différence. Par exemple, le Parti socialiste voudrait enlever le quotient familial et le remplacer par un crédit d'impôt, et puis, bon, le député qui était là a expliqué pourquoi ça lui paraissait plus juste, etc. Mais on est... Il y a un consensus sur le fait qu'il faut faire des choses pour la famille. Après, bien évidemment, les mesures, ça peut varier. Mais non, il y a un bel consensus là-dessus en France. Et encore une fois, il y avait aussi un ancien ministre de la Famille qui disait que, par exemple, un grand avantage en France, c'est que vous avez l'école maternelle à partir de 3 ans. L'Allemagne ne connaît pas ça. Ce n'est qu'à partir de 5 ans. si elles voulaient mettre ça en œuvre, ils ont calculé, je ne sais pas combien de milliards ça leur coûterait, maintenant, tout d'un coup, mettre en place une école maternelle à partir de 3 ans. Donc la France, pour ça, est oui, vraiment en Europe, une des meilleures loties, certainement.
Alors on va reprendre une série de questions ou d'interventions. Là, ça sera la dernière. Romain. Merci. Henri, devant.
Si. Oui, c'est dans la suite des politiques familiales que vous venez d'évoquer, là. Il y a de la crainte maintenant chez les sociologues que l'État, n'ayant plus beaucoup d'argent, on est entre deux objectifs, une politique familiale autour de la naissance des enfants, bon, dont la France excelle dans ce domaine, les Scandinaves à leur manière aussi. Mais en même temps, alors, on est tourné vers la dépendance, l'âge.
Parle bien dans le micro.
On est tourné vers maintenant aussi vers le problème de la dépendance qui coûte très cher. Il faut trouver de l'argent par rapport aux personnes âgées. On ne peut pas le confier complètement à une politique familiale. Et donc, les deux objectifs ensemble vont être assez difficiles à tenir. Et dans une société vieillissante, on ne sait pas bien qu'est-ce que les gens vont choisir à terme. Je crois qu'il y a une menace pour la famille. Et l'auteur sociologue qui parle de ça dit... Eh bien oui, s'il n'y a plus d'enfants en France au sens où assurer le renouvellement des générations, alors il faudra accepter les immigrés. Parce qu'il faudra remplir quand même ce pays pour qu'il puisse avoir une industrie, etc., une main-d'œuvre. Donc je crois qu'il y a là un problème assez difficile de financement dans le futur. Et ça dépendra beaucoup des mentalités. Et on ne sait pas comment elles vont évoluer. Mais il y a un facteur, vieillissement des populations, qui n'est pas forcément très favorable pour la continuité d'une politique familiale.
Merci Henri. Alors il y avait des questions tout en haut. Je crois qu'il y avait un doigt qui s'était levé. Eh bien non, il ne veut plus se lever. Non, monsieur, c'est bon. Voilà, vous avez déjà eu. Alors voilà, il y a une question ici.
Oui, bonsoir. J'aimerais que vous me précisiez ce que veut dire réinstitutionnaliser la famille dans le fait social. C'est-à-dire que ce soir, j'ai l'impression qu'on a beaucoup parlé des individus, mais pas du tout des individus dans la société. Et même, je dirais, il y a quelque chose qui m'a manqué, c'est le mot « sens ». La famille a-t-elle un sens ? La société a-t-elle un sens ? Comment ça se conjugue ? Merci.
Merci beaucoup pour cette question. Est-ce qu'il y a une dernière... Voilà, Françoise. Là, attendez le micro. Voilà.
Vous avez dit, monsieur, qu'il y avait une transformation de la filiation. Est-ce que l'on ne pourrait pas compléter cette affirmation en disant que parallèlement, il y avait une évolution ou une transformation de la parentalité ? C'est-à-dire que j'ai un peu l'impression qu'autrefois, il n'y a pas si longtemps que ça, mettons 50 ans, bon, on devenait parent, on ne se posait pas tellement de questions. Alors que maintenant, devenir parent, c'est un travail. Comme la famille, ça se construit, devenir parent, c'est plus que jamais, me semble-t-il, un travail avec des moments de doute, quelquefois. Donc, vous avez parlé aussi de la dépression des parents et de la nécessité de l'accompagnement. Est-ce que ce n'est pas important d'insister là-dessus ? Voilà ma question.
Alors, on va en rester là pour l'instant. Peut-être sur la question d'Henri Madelin, la question de dépendance, vieillissement, le constat, Monique.
Le constat d'Henri est exact, je ne dirais pas le contraire. Il n'empêche qu'une natalité forte reste la meilleure réponse à... Pour le financement de la dépendance. Et Henri, vous connaissez aussi bien que moi les documents européens. Si à un moment donné la Commission européenne s'est penchée sur le problème démographique, c'est pas tant parce qu'elle se souciait tout d'un coup des enfants, c'est tout d'un coup elle se souciait de comment financer une société vieillissante. Mais c'est vrai qu'il y aura des choix certainement difficiles pour l'attribution de budget à tel ou tel. Ça serait vraiment, oui, se tirer une balle dans le pied si on ne soutenait plus la natalité en raison du vieillissement. Le risque n'est jamais exclu.
Jacques, la transformation de la filiation, transformation de la parentalité.
Oui, bien sûr, mais je pense que les deux, ça va ensemble. Hein. C'est-à-dire que la filiation, c'est... Bon, il y a une différence entre parenté et parentalité. On sent bien que la parenté, telle que le définissaient les anthropologues, c'est ces systèmes symboliques, sociaux, qui s'imposent d'une certaine manière aux sujets et aux familles, qui règlent plus ou moins leurs alliances et leurs filiations. Bon, je ne dis pas que ces systèmes n'existent plus, mais ils sont beaucoup plus portés par le désir de chacun et subvertis par le désir de chacun. Ce qui fait que, à la fois, on a un système de liberté extrêmement forte et en même temps d'angoisse, de doute qui va avec. C'est-à-dire que la parentalité, c'est ce qui reste de la parenté quand on est amené à porter soi-même son devenir parent. D'ailleurs, c'est un terme assez récent qui est apparu dans les années 70, la parentalité. C'est-à-dire, c'est la manière dont on devient parent psychiquement, dont on s'approprie sa manière d'être parent, dont on peut devenir éventuellement un bon parent, parce que du coup, il y a des normes de parentalité, hein, qu'on peut, il y a des bons et des mauvais parents. Avant, on se pose quand même la question depuis le 19e siècle, des bons et des mauvais parents, mais peut-être qu'on se pose encore plus maintenant. Donc, c'est sûr que du coup, la trajectoire de chacun par rapport au fait d'être parent devient quelque chose d'extrêmement important aujourd'hui. Et c'est pas seulement une opinion qu'on peut avoir sur les choses. Je pense que dans la mesure où les gens ont beaucoup plus à créer eux-mêmes les choses en dehors des grands systèmes de parenté qui réglaient beaucoup de choses, c'est la nécessité d'avoir à porter ce métier-là est peut-être plus nécessaire aujourd'hui. D'où la question de la réinstitutionnalisation, d'ailleurs, qui fait que quand la famille est un peu au carrefour entre un lieu, ce qui est vrai dans le code civil, hein, l'autorité parentale, c'est aussi une nécessité sociale et pas seulement liée à l'intrafamilial. Je pense que ça permettrait aux personnes de porter beaucoup moins de choses lourdes psychiquement. Hein, c'est un peu la question qui est au centre.
Il y avait une question importante et ça va peut-être être celle qui va nous permettre de clore le débat sur le sens de la famille. La famille a-t-elle un sens ? Monique, c'est facile hein, comme question finale.
Après 32 ans de mariage et étant mère des 4 enfants, je me sens mal dire qu'elle n'a pas de sens. Mais... Non, si. Elle a un sens, je dirais, à la fois pour les personnes et pour la société. La personne, c'est quand même le lieu où la personne se construit, d'abord, à travers les relations avec les plus proches. Et je dirais qu'une famille, quand ça marche bien, ça peut même vous donner ce lieu extraordinaire où vous êtes aimé pour ce que vous êtes, indépendamment de vos performances, indépendamment de votre utilité. Et ça, c'est un cadeau absolument extraordinaire que la vie peut vous faire. Je sais bien que la famille ne remplit pas toujours ce rôle, mais c'est ce qu'elle peut donner. Et si elle le donne, c'est inestimable. À côté de ça, c'est aussi les lieux où se font tous les apprentissages de la vie sociale. Et c'est ce qu'on appelle dans notre document les compétences cachées des familles. Tout ce qui est le partage, l'apprentissage de la différence, le respect de la différence, mais aussi le pardon, la réconciliation, l'attention à l'autre, tout ça s'apprend en famille. Et ça fait tellement partie du béaba qu'on a du mal à le mettre en valeur. Et donc ça apparaît souvent en négatif. Au moment où la famille n'a pas joué ce rôle d'apprentissage des compétences cachées, parce que quand un jeune adulte n'a pas reçu ça dans sa famille, alors c'est très difficile pour le réapprendre à l'âge adulte. Donc le sens de la famille, oui, difficile à résumer en une phrase, mais elle ne fait pas de doute. Il ne fait pas de doute.
Vous l'avez très bien fait. Merci Monique. Jacques, peut-être aussi sur ce...
Oui, il y a un sens à protéger, hein, c'est ce qu'on a défini. Peut-être qu'il y a un sens déjà là à protéger. Et puis il y a un sens qui est un sens créateur hein, de la famille. dans une société finalement assez pessimiste, on voit bien autour de nous quand même que le pessimisme est assez présent, il y a une vitalité, comme tu disais, familiale, qui est une espèce de puissance, de vitalité de la famille, qui paraît évident, alors que moi je vois parfois le négatif de tout ça, mais c'est mon métier qui m'amène à voir les choses quand elles ne vont pas bien. Mais il y a une puissance qui défie un petit peu le pessimisme ambiant, d'une certaine manière, quand ça se passe bien. Et cette puissance est étonnante, au point que, justement, quand on est dans une société où la pensée de l'avenir est peu présente, la pensée de l'avenir chez la plupart des gens se réfugie dans leurs enfants, avec tous les problèmes que ça peut poser. C'est-à-dire que, évidemment, du coup, l'enfant est investi de beaucoup de choses. Mais en même temps, le fait d'avoir des enfants, de créer famille, c'est quelque chose qui est vraiment central pour les gens pour ça, parce qu'il y a, je veux dire, une pratique concrète de la pensée de l'avenir qui nous fait quand même gravement défaut aujourd'hui. Alors, avec tout le problème que ça pose, que cette pensée-là soit réfugiée dans le devenir familial. Mais là, il y a quand même une puissance de création.
Je voudrais vous remercier véritablement de la part de tous ceux qui étaient là ce soir d'avoir éclairé beaucoup de choses. D'avoir éclairé beaucoup de choses dans un débat si fondamental, de nous avoir donné aussi envie de continuer la réflexion sans tomber dans un pessimisme précisément peut-être écrasant à certains moments. Je crois qu'on est vraiment bien sur les enjeux de sens dans un tel débat. Je retiens aussi que les hommes français sont galants, c'est le mot, donc ça veut dire que tout n'est quand même pas perdu pour l'avenir. Je rappelle qu'à la sortie...
Maintenant, il faut tenir la réputation.
Oui, oui, on va essayer de tenir la réputation. Je vous rappelle qu'à la sortie, vous pourrez trouver un certain nombre de revues, documents, notamment documents épiscopat, les familles miroirs de la société, et puis, évidemment, la revue projet, la revue études et Christus sur ces différents thèmes. Je vous rappelle donc que la prochaine soirée aura lieu le mardi 8 novembre, en partenariat avec la revue Études sur le thème Crise de l'euro, crise de l'Europe, avec Jean-François Bourlange et Gaël Giraud à 19h30 et non pas à 19h15. Merci de votre fidélité et bonne soirée à tous.